Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans présents.
Sud Radio CCA La France, midi, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans CCA La France, l'émission du savoir-faire français, de l'excellence à la française. Au programme du jour, les nouvelles technologies, mais au service du savoir-faire, au service du Made in France. Par exemple, comment savoir si une entreprise fabrique réellement en France? Eh bien, tout simplement en la visitant virtuellement, on en parle tout à l'heure. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir une jeune entreprise qui a su allier tradition et innovation pour se démarquer dans l'univers de la chaussure.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Maria Karunagaran. Est-ce que je le prononce bien, Maria?
Parfaitement bien.
Vous êtes fondatrice de la maison Felger. Felger. Alors, pour être précise, vous êtes fondatrice de la maison Felger, mais vous produisez pour la marque de luxe R&K, donc une marque de chaussures.
Absolument. En fait, j'ai créé R&K, qui est une marque de souliers, en 2017. Et actuellement, on ouvre notre propre usine de fabrication Maison Felger en Bretagne.
À Fougères. On va en parler tout à l'heure. Alors, l'histoire raconte que l'idée viendrait de vous. Vous aviez souvent mal aux pieds. Hein. D'ailleurs, il faut le dire, hein, on a tous des formes de pieds, de longueur, de largeur différentes. Donc, c'est pas toujours simple de trouver chaussures à son pied. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé, vous avez trouvé une solution pour contenter tout le monde.
Exactement. En fait, nous vient justement de, comme vous dites, on a tous une anecdote à raconter sur des chaussures qui nous allaient pas forcément, en fait. Et du coup, on a décidé de s'inspirer de la technologie des podologues qui utilisent des scanners pour prendre les mesures des pieds des clients.
Ouais. Ouais, c'est une excellente idée parce qu'il faut le dire, hein, quand on porte des mauvaises chaussures, en général, ça entraîne des problèmes de dos, enfin d'autres maladies. Donc c'est important d'avoir des chaussures qui vous correspondent parfaitement. Vous parliez d'anecdotes, effectivement, on en a tous. Hein, je pense notamment au mariage. Quand
exactement.
On passe toute la journée avec des chaussures qui ne vous conviennent pas à la fin, vous avez c'est très très mal aux pieds.
Exactement, en fait, c'est vraiment... en parlant de mariage, c'est notre mariage qui nous a un peu poussé à faire ça parce que on choisit la paire qui va tenir le champagne, les graviers de la mairie, la danse toute la nuit. Et c'est vrai que ça nous a poussé un peu à trouver la chaussure parfaite.
Donc c'est comme ça que vous avez donc développé, vous le disiez, avec ces techniques utilisées par les podologues, le scan 3D des pieds. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne concrètement.
Alors le scan 3D des pieds, faut savoir que les podologues et les orthopédistes l'utilisent déjà pour prendre les mesures des pieds des clients. Ça prend quelques secondes, il faut monter sur une machine un peu qui fait un peu fantastique, qui croit science-fiction, et vous avez une caméra qui tourne autour du pied et qui capte des images de votre pied et permet une visualisation 3D du coup.
C'est-à-dire on modélise les pieds en 3D.
Exactement.
Et donc vous, comment vous faites? Parce que de mémoire, les chaussures chez les podologues, les orthopédistes, en général, les prix sont astronomiques.
On s'éloigne du marché de la chaussure sur mesure, mais on le rend accessible. Et la façon, c'est juste la technologie, en fait. On implémente vraiment avec la technologie le fait d'avoir la machine qui prend les mesures et pas un bottier sur place. Ça nous permet de couper des coûts et aussi de pouvoir gagner du temps, en fait, de fabrication.
Parce que justement, chez vous, la mesure, on l'a fait depuis chez soi.
Il faut passer à la boutique la première fois, il faut venir à la boutique se faire scanner les pieds. Et une fois qu'on a enregistré les données, c'est vrai que le client n'a plus besoin de revenir à la boutique. Il peut commander directement depuis le site internet ou même nous passer un coup de fil et nous dire « Écoutez, j'ai besoin d'une paire de chaussures pour un mariage ou pour tel ou tel événement. » Et on lui fabrique sur mesure et on l'envoie chez lui.
Quel que soit le modèle de chaussures, que ce soit des mocassins, des derbies, des bottines, c'est le même procédé?
Exactement, c'est le même procédé pour tout le monde. On discute avec le client de ses habitudes de marche, de ses habitudes de vie, voilà, dans quel environnement il a l'habitude de vivre et de faire vivre ses chaussures. Et ensuite, on travaille avec notre atelier de fabrication pour créer la paire de chaussures de ses rêves.
Mais il faut dire quand même qu'avec ces nouvelles technologies, vous révolutionnez l'univers du sur-mesure dans la chaussure. Alors, effectivement, le prix moyen à 850 €, c'est pas ultra abordable, mais ça l'est complètement quand on le compare avec d'autres entreprises qui sont justement dans ce sur-mesure.
Exactement. En fait, on a réussi à à intégrer pas mal de procédés technologiques pour nous faciliter, pour faciliter le travail de nos artisans. Et du coup, on arrive à réduire pas mal de coûts, notamment, on imprime les formes 3D de nos clients. Donc la forme, faut savoir que c'est le moule de la chaussure, et on arrive à la recycler en interne. Donc ça, c'est des choses qui nous permettent de pas stocker les formes et d'avoir un procédé totalement nouveau dans l'industrie.
Donc une fois qu'on a nos formes en 3D, comment ça se passe? Vous avez dû donc chercher des entreprises françaises. C'était compliqué d'ailleurs de les trouver, ces fabricants, pour pouvoir justement prendre la suite.
Ah oui, complètement. En fait, on a, comme vous savez, le savoir-faire est en perdition en France, malheureusement. Et donc, il a été très difficile de trouver des fabricants français, surtout quand on est une jeune marque et qu'on commence à gagner en notoriété seulement. Face à des gros mastodontes, on passe forcément à la trappe. Et du coup, on s'est rendu à Fougères, qui est un ancien pôle de la chaussure de luxe. Et on a retrouvé d'anciens employés du secteur, des retraités.
Bah, notamment J.B. Martin, qui a été pour une centaine d'années un fleuron de l'industrie fougeraise. Hein.
Exactement, il y a J.B. Martin, Noël, etc. Donc, ils sont des grands noms de la chaussure française. Et on a réussi à retrouver d'anciens employés qui nous ont permis de reconstituer une équipe.
Vous êtes une équipe de combien de personnes aujourd'hui? Parce que là, vous n'avez pas encore... à partir de quand vous allez pouvoir répondre à toutes ces commandes? C'est une entreprise toute récente, hein, même si l'idée date de 2016, je crois, 2017.
Hein. Oui, c'est ça. Alors oui, la marque existe depuis 2017, mais c'est vrai que l'usine, enfin l'atelier de fabrication, va ouvrir dès le mois d'avril.
Ah là là.
Donc on crée actuellement une dizaine d'emplois pour l'ouverture, et l'idée, c'est de passer à 30 emplois d'ici 2-3 ans.
Déjà, une dizaine d'emplois, c'est un beau défi, hein, que vous lancer.
Oui, absolument. La chaussure est assez, vous devez savoir, c'est assez complexe à gérer, donc il y a pas mal d'étapes à faire, à suivre, et donc entre technologie et le savoir-faire traditionnel, on a des bottiers, des piqueurs, des couturières, des patronnières, etc.
Ah bah oui, entre les coutures, le cousu Goodyear, le cousu norvégien ou les autres coutures, c'est vrai que pour avoir des chaussures de qualité, il faut maintenir aussi un savoir-faire traditionnel.
Exactement.
Là, vous allez ouvrir, en avril 2021. Oui. Vous avez créé une dizaine d'emplois. Donc, l'étape suivante, c'est quoi? C'est déjà de voir comment tout ça fonctionne. C'est quoi votre stratégie?
Là, on a la chance d'être dans une politique assez globale. Donc, on a déjà des touches à l'étranger. C'est vrai que le savoir-faire français, ça fait rêver l'étranger, ouais. L'international. On a déjà des demandes. Donc, oui, c'est pour ça qu'on se projette déjà sur l'ouverture de 30 nouveaux postes d'ici 2-3 ans. Et là, on lance pour l'occasion des préventes exclusives les 100 premières paires de chaussures qui sortiront de l'atelier. Justement, on essaie de faire un système de précommande pour permettre aussi aux clients de venir visiter l'atelier quand on ouvrira en avril.
Alors, pour ceux qui nous écoutent, comment fait-on pour profiter de ces précommandes? C'est sur Internet? Comment ça se passe?
Absolument. Vous pouvez soit venir à la boutique qui est située dans le 5e arrondissement à Paris, 24 rue des Boulangers, ou alors vous pouvez aller sur le site internet www.wrk.fr.
Merci Maria Karuna Garan, fondatrice de la maison Felger et de la marque de luxe R&K.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Alors, vous évoquiez justement la visite d'entreprise. Eh bien, on va se quitter un court instant et juste après, on vous montrera comment on peut visiter les entreprises virtuellement et vérifier justement que le savoir-faire est bien fait sur le territoire français. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio CSA La France, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Aujourd'hui, on s'intéresse aux nouvelles technologies au service du savoir-faire, au service du Made in France. Ces nouvelles technologies qui vous permettent désormais de visiter virtuellement les coulisses des entreprises françaises. Comment ça se passe? Et bien, on en parle tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France qui innove.
Et nous sommes en ligne avec Renaud Escorbiac, fondateur de la start-up Inertio, spécialiste de la réalité virtuelle et qui a lancé France Immersive, la première plateforme de visite interactive à distance dédiée aux entreprises françaises. Bonjour Renaud.
Bonjour Nathalie.
Alors selon un sondage Opinionway, les deux tiers des personnes interrogées estiment avoir augmenté leur consommation de produits français depuis l'épidémie de Covid. Après, la question c'est comment vérifier que c'est réellement fait en France? Vous avez trouvé le moyen d'y répondre.
Alors déjà, c'est une bonne nouvelle à laquelle on pensait déjà avant, je dirais, avant le drame, avant le Covid. et pour laquelle on se battait, puisque en effet, quand on a créé Inertio, on a créé Inertio avec une seule idée, c'était de pouvoir proposer aux chefs d'entreprise, aux directeurs commerciaux, à tous ceux qui voyageaient en fait à l'extérieur de leur base, d'avoir dans leur poche leur entreprise en ayant accès avec un savoir-faire technologique particulier, puisqu'on filme en vidéo 360 que nous rendons interactive. Et le Covid nous a encouragé à accentuer cette diversification, parce qu'en fait on a créé cette plateforme France Immersive qui permet maintenant de voir en ligne des entreprises à savoir-faire français qui produisent en France, parce qu'en fait c'est ça ce que vous soulevez, c'est la difficulté de comprendre où est la limite.
Exactement. Alors là, on voit tout, vous voulez dire. C'est-à-dire que vraiment, c'est de la visite guidée. Faites-nous rêver, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut voir? Des chocolateries, des savons de Marseille, de la grosse industrie. On va où avec France Immersive?
Exactement. Tout ce que vous avez raconté se trouve déjà sur France Immersive. Allez, je vous fais rêver dans un vignoble directement. vous allez le voir comme il est. C'est-à-dire qu'on va venir filmer pendant les vendanges, par exemple, ou le traitement de la vigne. On va aller filmer dans le chai. Et on va quand même un petit peu scénariser, hein, on filme pas tel que c'est, mais on va un peu scénariser avec les collaborateurs de l'entreprise en général, et on va filmer en 360. Donc ce qui est rigolo avec une caméra 360, c'est qu'on voit tout,
ouais.
Et les défauts. Et moi, je pense que les défauts, entre guillemets, de l'industrie, prouvent aussi sa présence sur notre sol. C'est-à-dire que du coup, c'est une espèce d'outil supermarketing qui finalement vient aussi contrecarrer le supermarketing.
Oui, c'est une manière de prouver qu'on est vraiment, c'est pas une sorte de, c'est pas un semblant de fabrication, quoi. Tout se fait vraiment sur place. Il y a les déchets, il y a tout.
Exactement. Par exemple, une chocolaterie. Quand on fait un film institutionnel dans une chocolaterie, on va avoir des très très belles images, assez léchées, sur les chocolats, sur les mains peut-être même des collaborateurs de l'entreprise. Nous, on filme ce que l'œil voit. Donc on va voir des machines, des gens sur des machines, un process, et puis s'il y a du chocolat qui déborde un peu du moule, on le voit aussi. Et finalement, ça rend vivant. En fait, ça ressemble à une vraie visite.
Comment les entreprises ont accueilli cette plateforme? Et d'ailleurs, elles sont nombreuses à vous suivre aujourd'hui?
Alors, elles l'accueillent plutôt favorablement. La problématique, c'est qu'il y a quand même un coût, parce que comme je vous le raconte, c'est de la vidéo 360. Moi, j'ai des équipes spécialisées dans la vidéo. On scénarise, donc il y a quand même un travail préalable à réaliser et ensuite un gros travail technique à réaliser. Nombreuses, pas assez je dirais,
oui.
Pas assez parce que c'est nouveau premièrement et deuxièmement parce que moi il faut un temps de réalisation. Je vais vous citer des exemples qu'on est en train de réaliser pour des écoles, par exemple une école de joaillerie à Paris qui est magnifique en plein cœur de Paris et qui aujourd'hui est bloquée, ne peut pas faire de journée porte ouverte. On peut réaliser des films immersifs dans différents domaines d'activité, par exemple pour des carrières. Les carrières, c'est hyper méconnu.
Ça prend combien de temps pour vous, justement, si on va visiter une carrière sur place pour réunir assez d'images et nous proposer une vraie visite en 360 degrés? Combien de temps de réalisation?
Un projet global, c'est à peu près, il faut compter entre un mois et deux mois.
Ah, quand même! Ah oui! Donc ça a un budget, parce qu'il faut rappeler que c'est gratuit pour nous. Hein. C'est accessible à tous gratuitement pour le public.
C'est exact, pour les visiteurs. Parce qu'en fait, le but, c'est de montrer que par la visite, l'entreprise acquiert un peu de ROI, que ce soit en termes de notoriété, que ce soit en termes, quand elle fait du retail, lien vers son site web. Donc, on va augmenter le panier moyen, accroître sa visibilité. Dans du B2B, par exemple, on fait des films, beaucoup d'expériences immersives dans le B2B. On va accroître son taux de transformation en faisant visiter son entreprise. Un peu comme une visite physique fait partie d'un process de vente. Mais aujourd'hui, la visite immersive intègre le process de vente à distance. Oui. Du coup, c'est un peu plus simple de multiplier.
Donc, il faut justement faire comprendre à ces entreprises ce que peut apporter une plateforme comme celle de France Immersive. Ça permet donc effectivement de montrer que les produits sont bien faits en France. Ça permet de valoriser les savoir-faire artisanaux, ancestraux. Alors, il faut le dire, cette plateforme, vous l'avez quand même créée en un temps record.
C'est gentil. C'est vrai, on a beaucoup travaillé. on s'y est mis, comment dire, mais enfin, c'est un peu le leitmotiv des chefs d'entreprise. On est contraint de rebondir. On s'y est mis quand on a été confiné. Quand on a été confiné, nous, on proposait des visites immersives dans des casques. Parce qu'en fait, dans les casques, C'est un véritable outil de téléportation.
Bien sûr.
Ça nous était compliqué de se dire, un peu comme si j'inventais la voiture volante et que je devais finalement fabriquer des voitures roulantes. Vous voyez, c'était un peu pareil. Et puis finalement, on a compris que en ligne, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que le public s'élargissait considérablement. Même si on perdait un peu le côté téléportation, on gardait le côté découvert.
Oui.
Et le français, alors il se trouve qu'en plus, ça a été accompagné par, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme un engouement particulier pour le Made in France. Et aujourd'hui, visiter une entreprise qui fabrique des luminaires ou des produits en silicone, le français aime ça. Enfin, moi, personnellement, déjà, j'aimais bien les usines.
Et là, encore plus.
Et là, parce que c'est fabuleux de rentrer dans des secrets de fabrication, dans des usines où on voit... Aujourd'hui, il y a aussi un mouvement qui participe de la réindustrialisation de la France, ou en tout cas de faire en sorte de stopper notre désindustrialisation. Moi, je pense que, enfin, en tout cas, nous, on s'inscrit dans cette démarche, car nous ne réalisons des visites immersives que d'entreprises françaises.
Oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent, comment retrouver ces visites virtuelles ?
Vous allez tout simplement sur franceimmersive.com et il y a un petit moteur de recherche, vous allez voir, c'est rangé par catégorie et on va pouvoir aller voir aussi, par exemple, voyager, parce que ça marche aussi pour les villes, pour les lieux touristiques, pour les terroirs. Et après, quand on est féru d'industrie, on va trouver des industries, des savoir-faire, vous l'avez dit, des savoir-faire ancestraux.
Eh ben, merci beaucoup, Renaud Escorbiac. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la start-up française Inertio, spécialisée dans la réalité virtuelle. Mais là, vraiment, vous nous avez parlé de cette France immersive, cette plateforme de visite interactive à distance, pour vraiment mettre en avant le savoir-faire français. Merci à vous et j'espère que nos auditeurs de Sud Radio pourront suivre les coulisses des futures entreprises que vous mettrez très bientôt sur votre site.
Merci beaucoup Nathalie.
Bon dimanche, au revoir.
Merci, au revoir.
Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, on va parler des artisans d'art, ou plutôt d'un réseau qui les soutient et qui les accompagne, notamment quand ils se lancent. Parce que vous le savez, c'est pas facile de choisir par où commencer et de structurer un projet afin qu'il soit viable. C'est la raison qui a poussé Aude Hoguet, après 15 ans dans la finance, à mettre toute son énergie dans Artisans d'avenir, ce réseau qui active les projets des artisans. Écoutez, je l'ai rencontrée à Paris, elle était en visite justement dans l'atelier d'un artisan créateur.
On a créé Artisans d'avenir avec mon associé qui s'appelle Philippe Azet, donc il y a 2 ans. Et le but ultime de ce projet, c'était qu'on a envie que les artisans d'art fassent plus partie de notre quotidien. Et donc pour ça, c'est important aussi qu'ils aient une viabilité économique. Et donc nous, on a décidé de les soutenir en créant un projet qui permet d'activer les projets des artisans d'art, justement. Et donc on a décidé de créer des solutions d'accompagnement à différents stades de développement des artisans d'art. Donc à l'orientation, la reconversion vers l'artisanat d'art, quand ils s'installent et quand ils sont lancés. Et après, on a différentes actions, donc soit des événements ouverts à tous, où on aborde une thématique particulière qui touche les artisans d'art et on invite un spécialiste et des artisans à témoigner.
D'accord.
On crée pas mal de contenu, donc l'interview avec Samuel, pour illustrer des parcours, et on part du principe qu'en fait chaque artisan a son expérience et des bonnes pratiques à partager aux autres, et que chacun d'eux nourrisse les projets des uns des autres.
Donc là, on est vraiment dans le partage d'expériences entre néo-artisans, artisans déjà installés. Elle évoque d'ailleurs un Samuel.
Oui, on va en parler tout à l'heure. C'est un fabricant de boutons de manchette. On en parlera tout à l'heure.
On a une idée de nombre d'artisans d'art aujourd'hui en France, Thibaut ?
Il y en a environ 120 000 emplois dans le secteur. Ça représente 300 métiers différents quand même, pour un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards d'euros, je crois. Et bien sûr, ce sont tous des passionnés qui aiment la tradition et qui défendent le savoir-faire et le fait à la main. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces artisans d'art, il y en a beaucoup qui viennent d'univers totalement différents et qui ont fait le choix de se reconvertir. J'en ai justement discuté avec Aude, écoutez.
Alors, il y a énormément d'artisans qui sont reconvertis, donc Samuel en est un.
Samuel, on en parlera tout à l'heure, parce qu'on est chez lui, on en dira deux mots tout à l'heure.
Donc je crois que les ratios, c'est aujourd'hui 70% des artisans installés sont des artisans reconvertis.
Alors par exemple, qu'est-ce qu'ils faisaient
avant? Je pense qu'il n'y a pas de généralité sur...
Un profil, par exemple, qui vous a marqué
Par exemple, je peux vous parler de Alix Derenis. Elle était claire de notaire, ensuite elle a fait de la sculpture et elle avait très envie de créer une marque esthétique utilitaire et elle a créé une marque de porcelaine. Et donc elle crée des moules et ensuite elle sous-traite sa production à des manufactures, mais elle crée vraiment tous ses prototypes.
Il y a une place pour tout le monde?
Je pense que c'est un secteur qui est difficile et donc c'est pour ça qu'on essaie de donner des outils pour se différencier. Moi je pense qu'on peut sortir du lot. Après, la réalité, c'est que c'est quand même un marché qui est compliqué.
Compliqué, j'imagine qu'il faut être passionné.
Il faut être passionné, il faut être persévérant. Dans les débuts, il faut avoir des alternatives pour gagner sa vie parce qu'on met du temps à gagner sa vie.
Alors, en parlant de reconversion, je crois que vous avez un autre exemple de reconversion, Thibaut, à nous raconter.
J'ai un autre exemple, justement, c'est Samuel Gassman. Il travaillait dans l'univers de l'audiovisuel. Il s'est mis à fabriquer des boutons de manchette. Mais comme on n'a plus de temps,
La semaine prochaine, on vous fera découvrir d'autres artisans d'art et effectivement tous ces Français qui décident de se reconvertir dans l'artisanat. Merci beaucoup Thibaut. Merci à vous chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même radio. D'ici là, portez-vous bien. Et pour les nostalgiques ou les retardataires, vous pouvez bien évidemment retrouver l'émission sur sudradio.fr en podcast. Bon dimanche.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.